Europe Midi, Simon Rubin.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Europe Midi, les midi 30. L'humanité court-elle de plus en plus vite vers l'apocalypse? Le rapport du GIEC sur le climat, référence mondiale en la matière, démontre que les activités humaines continuent de dégrader les écosystèmes de la Terre de plus en plus vite. Le pass sanitaire élargi dans les gares, les restaurants notamment, c'est à partir d'aujourd'hui. Reportage à suivre. On fera le point aussi sur ce que vous risquez si vous ne suivez pas la règle. Loin des yeux de l'Occident, les talibans continuent de reprendre à leur main l'Afghanistan. Ils contrôlent désormais 5 des 34 capitales provinciales du pays et dans la grande ville de Kunduz et ses 300 000 habitants notamment. Et puis le sport, tempête médiatique en approche au PSG où l'on attend toujours Lionel Messi. Et puis le bilan des Jeux dressé ce matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer. On reviendra d'ailleurs en détail sur ces Jeux de Tokyo avec mon invité après ce journal, Béatrice Barbus. Elle est vice-présidente déléguée à la Fédération française de handball et sociologue du sport. Et puis la météo complète en fin de journal avec Valérie Darmon. Le temps va s'améliorer et ça vient du sud.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'humanité court-elle à sa perte? On serait tenté de répondre oui à la lecture de ce nouveau rapport du GIEC. Un GIEC pour groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un groupe de scientifiques et de chercheurs de 195 pays qui publie tous les 6-7 ans un rapport extrêmement complet qui analyse la situation climatique de la planète et l'impact des activités humaines sur nos écosystèmes. Et à chaque rapport, la situation empire. Et dans cette nouvelle publication, Hélène Terzian, pas de surprise, hein, le secrétaire général de l'ONU lance même une alerte rouge pour notre planète.
Oui, il faut dire que les conclusions du rapport sont apocalyptiques. À commencer par ce chiffre, plus 1,5 degré. C'est le seuil de réchauffement climatique que va atteindre la planète d'ici 2030, soit 10 ans plus tôt que dans les précédentes projections. Un seuil qui devrait de nouveau être dépassé d'ici 2050. Des températures qui vont donc augmenter, ce qui agite encore plus la menace de nouveaux désastres météorologiques semblables aux incendies qui ont ravagé cet été l'Ouest américain, la Grèce, la Turquie, aux inondations qui ont submergé une partie de l'Allemagne et de la Chine. D'après le rapport, ces phénomènes, canicules, sécheresses, pluies diluviennes, vont subir une hausse sans précédent. Autre point choc, les experts estiment que certaines conséquences du réchauffement climatique sont désormais irréversibles. C'est le cas de la fonte des glaces et de la montée des eaux. Le niveau de la mer pourrait ainsi gagner jusqu'à 1 mètre d'ici 2100. Enfin, alors que les forêts, les océans, les sols sont nos alliés cruciaux contre le réchauffement climatique, eh bien, ils montrent des signes de saturation. Leur capacité d'absorption du CO2 s'affaiblit. Autant de sonnettes d'alarme assourdissantes pour le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres estime que ces signaux doivent sonner le glas des énergies fossiles qui, disent-ils, détruisent notre planète.
Hélène Terzian, et je vous livre cette exhortation de la militante écologiste Greta Thunberg. Il nous revient d'être courageux et de prendre des décisions sur la base des preuves scientifiques qui figure dans cette publication. La publication de ce rapport, qui intervient à moins de 100 jours de la COP26 à Glasgow, étape cruciale pour faire un point sur les avancées des États signataires de l'accord de Paris en matière d'écologie, notamment pour faire le point sur la réduction des émissions de CO2. Et c'est dans ce contexte que des incendies colossaux, Hélène en parlait, se déclarent un peu partout sur le globe. Aux États-Unis, la Californie connaît le plus grand feu de son histoire et en Grèce, 13 jours après leur déclenchement, les incendies ne sont toujours pas maîtrisés. L'essentiel des efforts des pompiers se concentre en Eubée, la deuxième plus grande île du pays à l'est d'Athènes. On fait le point avec Claire Leys.
Des flammes inarrêtables, une fumée qui irrite la gorge et ce ciel apocalyptique aux teintes orangées. L'île de Bé se réduit en cendres sous les yeux des pompiers. Leur mission est quasiment impossible. Les routes sont inaccessibles et les points d'eau insuffisants. Des conditions similaires à celles qu'a connues le lieutenant-colonel des Bouches-du-Rhône, Nicolas Faure. Il se trouve dans la région d'Athènes depuis jeudi. Il n'a jamais été confronté à un feu si violent.
Nous avons vécu plusieurs feux en France, de nombreux feux pour certains, mais pas de cette ampleur qui paraissait démesurée. Les superficies concernées, le nombre de maisons menacées, les conditions sont vraiment à une échelle que nous n'avons pas encore connue, heureusement, en France. De la part de la population, il y a de la peur. Il y a aussi énormément de soutien envers nous. Chaque fois qu'on s'arrête quelque part, on nous offre de l'eau, on nous offre de la nourriture. On ressent énormément de fatigue et c'est compréhensible de la part de nos collègues grecs qui sont sur le front, je dirais, depuis plusieurs jours et ça pèse.
Pour venir à bout du feu, des pompiers sont venus de toute l'Europe. d'Europe, de Chypre, de Croatie, de Suisse, de Suède ou encore d'Ukraine. La France, elle, va encore en envoyer une centaine cette semaine. Le travail est loin d'être terminé car même une fois les incendies maîtrisés, il faudra surveiller les points chauds des terres brûlées. À tout moment, le vent peut raviver les flammes.
Et on reviendra sur ces phénomènes climatiques extrêmes qui s'amplifient avec mon invité ce soir dans le 18-20, Valérie Masson-Delmotte, qui est coprésidente du premier groupe de travail du GIEC. À partir d'aujourd'hui, entrée en vigueur du fameux pass sanitaire élargi pour rentrer dans les restaurants, les bars, pour une bonne partie des transports également. Alors par pass sanitaire, on entend bien sûr témoigner d'une vaccination complète ou bien d'un test négatif au Covid. On va tout de suite partir gare de Lyon à Paris pour retrouver Zoé Palier, reporter pour Europe 1. Zoé, vous observez ces premiers contrôles depuis ce matin en gare et tout se passe bien, les voyageurs avaient prévu le coup.
Oui, Marie-Christine, par exemple, billet de train et passe sanitaire dans la même enveloppe. Elle est venue un peu plus tôt que d'habitude attendre son train pour Aix-en-Provence.
Justement, j'ai demandé, je voulais savoir si c'était l'affolement au moment de monter dans le train ou si on pouvait le montrer avant. Enfin bon, voilà. Donc j'ai compris que c'était simple parce qu'on vous mettait un petit bracelet, on vous marquait. Comme quoi vous étiez autorisé à prendre le train.
Des bracelets bleus distribués par des agents de la SNCF ou de la protection civile. Younes est directement allé à leur rencontre présenter son attestation.
On a reçu aussi un SMS de la SNCF disant que le pass sanitaire sera obligatoire à partir d'aujourd'hui. On l'a utilisé au karting, au cinéma. On était à Athènes, on l'a utilisé à l'aéroport. Donc finalement, le train, c'est un truc en plus.
Beaucoup ici se disent soulagés de ne voyager qu'avec des gens vaccinés ou testés négatifs. Pour Pascal, en revanche, c'est juste un moyen d'éviter 135 euros d'amende.
On a l'attestation, donc on va la présenter parce qu'on est contraint à le faire, mais c'est pas de gaieté de cœur. On était à Paris et quand on voit que c'est pas obligatoire dans le métro, moi ça me contrarie quoi. Il y a une forme d'inégalité quand même.
Pascal qui finalement est monté dans son train sans que personne ne lui demande d'attestation, mais il peut encore se faire contrôler à bord du train ou une fois arrivé à destination.
Passe sanitaire obligatoire donc en gare, vous venez de l'entendre, et aussi pour entrer dans les restaurants. Maximilien Carlier, vous vous êtes promené place Rioux en plein centre de Lille où les restaurateurs sont en place. Ça y est, tout est prêt pour faire respecter ce passe sanitaire élargi, Maximilien ?
Oui, effectivement, depuis ce matin, devant chaque restaurant, on voit des affiches « passe sanitaire obligatoire » avec juste à côté des poteaux pour marquer les files d'attente. Eric vient de Nîmes. Ce touriste observe attentivement la carte d'un établissement, smartphone dans les mains, prêt à dégainer son QR code.
Donc on a notre application anti-Covid avec le pass sanitaire. Il faut bien le faire, bien s'en sortir. De toute façon, on est obligé.
Obligé pour manger une moule marinière. Alors ici, place Rioux, il n'y a pas trop de monde. Puis les vacances peut-être, mais surtout le pass sanitaire pour Rodolphe, employé au restaurant La Chicorée.
Nous n'avons personne dans l'établissement. Alors que d'habitude, on a au moins 5 ou 10 personnes qui sont présentes. Je pense que ça joue, oui. C'est encore les restaurateurs qui en prennent plein la figure, entre guillemets.
On sent de la colère, de la résignation, surtout qu'il y a les premiers clients recalés, comme à l'abbaye située juste à côté.
Puis il y a 6 ou 8 personnes que j'ai refusées déjà, depuis 8h du matin. Donc on verra sur la longueur, sur la journée, comment ça va se passer. Mais après ça va être un peu du loto. Hein.
On fera le bilan ce soir, c'est ce que m'ont répondu la plupart des restaurateurs. Ici, des policiers municipaux tournent, non pas pour contrôler, mais plus par prévention.
Maximilien Carlier à Lille, un pass qui s'applique aussi dans les hôpitaux, les maisons de retraite et enfin pour tout rassemblement dans un lieu public, à l'exception des lieux de culte et des mairies. Marion Dubreuil du service police-justice est avec nous. Et Marion, une question simple, à quelles sanctions s'expose-t-on si on est en infraction ?
Eh bien, si vous êtes à la terrasse d'un café, par exemple, alors que vous n'avez pas de passe sanitaire, vous risquez une amende de 135 euros, même tarif si vous utilisez un faux certificat. L'amende peut monter jusqu'à 3 750 euros si, en l'espace de 30 jours, vous commettez 3 fois cette même infraction. Ça, c'est pour les usagers. Le restaurateur, lui, doit s'assurer que sa clientèle a bien un passe sanitaire valide. S'il n'effectue pas ses contrôles, il s'expose à une mise en demeure, puis à une fermeture administrative. En Enfin, il encourt 9000 euros d'amende et jusqu'à un an de prison si l'infraction est constatée à 3 reprises en 45 jours. Pour ce qui est des transports, la loi promulguée vendredi précise que le pass sanitaire est exigé pour les trajets longs, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis. Les exploitants de services de transport sont obligés de contrôler que les passagers sont bien munis d'un pass sanitaire. En cas contraire, ils risquent une amende de 1500 euros. L'amende est majorée à 9000 euros à partir de 3 verbalisations en 30 jours.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Bientôt 20 ans après le début de la guerre d'Afghanistan menée par les États-Unis et d'autres pays occidentaux, la situation du pays se dégrade violemment. Les talibans reprennent aujourd'hui peu à peu le contrôle du territoire. Ils ont la main sur 5 des 34 capitales provinciales du pays, dont la grande ville de Kunduz et ses 300 000 habitants. Et l'exode se poursuit. Des civils qui fuient les combats, comme l'armée afghane les y a invités. À Kaboul, la capitale, l'inquiétude grandit face à la progression des insurgés. Mais certains tiennent bon, malgré tout. Marion Gauthier.
Sa famille, envoyée en Turquie. Habib, lui, ne se résout pas à quitter Kaboul, même s'il doit vivre au rythme des annonces des victoires des talibans.
Tout le monde est très inquiet pour la suite. C'est visible sur chaque visage ici. Je ne peux pas quitter mon pays, je travaille ici, je ne peux pas partir. C'est notre pays, où irions-nous? Nous devrions pouvoir vivre ici. Nous devons tenir pour notre peuple, pour notre société, pour notre liberté.
Le jeune entrepreneur se désole de voir les ambassades étrangères se vider une à une. La France, les États-Unis, puis le Royaume-Uni ont rappelé leurs ressortissants. Ils font place nette aux insurgés, dit-il.
Qui meurt? Seulement des civils. Ils crient et personne ne les écoute. Pourquoi? Arrêtez par pitié. Nous avons besoin d'un accord de paix. Les talibans veulent contrôler le pays par la force. Nous n'accepterons jamais, jamais, jamais.
Un sursaut de courage pour rester encore un peu. La guerre est aussi psychologique, insiste Victoria, une énergique professeure à l'université américaine de Kaboul.
Tout est encore possible. Il ne faut pas laisser les talibans coloniser nos cerveaux. Rien n'est perdu. Tant que les talibans ne sont pas frappés à la porte de vos bureaux.
La seule peur que j'ai, lance-t-elle, c'est qu'on me demande d'abandonner mes étudiants à leur triste sort, encerclés par les talibans.
Marion Gauthier, figure de la dissidence soviétique, Sergueï Kovalyov est mort ce matin à l'âge de 91 ans, annonce de sa famille. Lauréat en 2009 du prix Sakharov du Parlement européen, il était l'un des grands défenseurs des droits humains et l'un des plus célèbres en Russie. Il fut une voix très critique de la première guerre de Moscou en Tchétchénie et du système autoritaire mis en place ces dernières années par Vladimir Poutine. Et puis on apprend cette information à l'instant. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, indique sur le réseau social Twitter qu'un prêtre a été assassiné en Vendée. Pas plus de précisions pour l'heure, mais le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Et évidemment, vous aurez de plus amples informations au fil de nos éditions d'information de la journée.
Simon Rubin sur Europe 1.
12h43 sur Europe 1, on va parler sport. Les Jeux Olympiques de Tokyo se sont donc achevés hier. Les derniers athlètes français arrivent ce soir à Paris avec présentation de leurs médailles au Trocadéro. Et il y en aura des médailles puisque ce sont les sports collectifs qui ont brillé, hein, qui arrivent, avec notamment handballeurs et handballeuses en or. La France qui termine 8e hein, malgré cela au classement avec 33 médailles. On est loin de l'objectif que les politiques avaient eux-mêmes fixé. Mais Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, préfère voir le bon côté de la médaille.
Comme pour tout bilan, il y a du positif et du négatif. Le positif, ne le négligeons pas quand même. Cette partie finale des Jeux où on réussit à avoir des médailles d'or si belles dans les sports collectifs, ça n'est pas rien. Des sports comme le handball, le basketball ou le volleyball sont des sports qui sont très pratiqués à l'école par nos professeurs d'éducation physique et sportive depuis des années et des années. Et on voit maintenant des générations de handballeurs se succéder et à chaque fois remporter la médaille d'or. Ça montre que le système scolaire, dans la durée, a beaucoup d'importance pour non seulement l'ensemble de la population, mais même pour l'élite du sport. Et puis, il y a un aspect négatif de ce bilan, c'est qu'évidemment, il y a des domaines entiers où on est faible, l'athlétisme, le cyclisme, non. La natation, c'est trois domaines où c'est plusieurs centaines de médailles que l'on peut avoir quand on cumule les trois, et où on n'en a même pas cinq. Mais notre stratégie, elle est déjà claire, hein, c'est de venir en appui des fédérations, notamment pour miser sur nos points forts, et puis d'autre part, là où c'est faible, regarder comment on peut compenser.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, il n'y a pas que les handballeurs et handballeuses français, hein, qui rentrent et qui arrivent à Paris aujourd'hui. Il y aura peut-être le footballeur Lionel Messi qui est attendu au PSG. Alors Cédric Chasseur, hein, c'est toujours l'attente et une attente fébrile à l'idée de voir la star mondiale débarquer. Hein.
Oui, et si certains fans campaient déjà hier devant l'aéroport du Bourget, les supporters présents aujourd'hui devraient avoir plus de chances d'apercevoir l'ex-star du Barça. Car certains signes laissent présager d'une arrivée imminente de Messi sur le sol français. La sécurité a été renforcée autour de l'aéroport, mais aussi autour du Parc des Princes, où l'Argentin pourrait être présenté dès aujourd'hui, selon certains médias. Messi à Paris, la Ligue des Talents n'aura jamais aussi bien porté son nom. Elle ravit les supporters du PSG, mais aussi certains de ses adversaires, comme Nicolas Hollweck, le président de Rennes, invité hier soir d'Europe 1 Sport.
C'est fantastique pour le championnat de France. Bon, déjà que le Paris Saint-Germain est déplacé du monde, là, je pense que les stades seront pleins à craquer à chaque fois que Paris se déplacera. Et puis pour la notoriété de la Ligue 1 dans le monde, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est certain. Ça fait toujours rêver d'affronter les meilleurs joueurs du monde, et ce sera une motivation de plus pour bien figurer contre le PSG.
À son arrivée au PSG en 2011, le président Nasser Al-Khelaïfi disait vouloir trouver le nouveau Messi. 10 ans plus tard, il est en passe de se payer les services de l'original, un atout de plus dans la manche du Paris Saint-Germain, qui ne rêve que d'une chose, remporter la Ligue des Champions.
Cédric Chasseur, on passe à la météo. Avec vous, Valérie Darmon, le temps s'améliore comme prévu par le sud du pays.
Et effectivement, Simon, excepté de la Bretagne au Pas-de-Calais, le temps est beaucoup plus calme, beaucoup plus sec, dans une atmosphère qui redevient estivale. Des Landes à l'Auvergne jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace, les nuages peuvent laisser échapper une ou deux petites ondées, rien de méchant, mais le ciel s'éclaircit un petit peu plus au fil des heures. Sur le sud, évidemment, c'est le grand beau temps. Et les maximales commencent aussi à grimper partout.
Merci Valérie Darmon. 12h46 sur Europe 1. Dans un instant, l'entretien d'Europe Midi.
Europe Midi, Simon Rubin.
Et il est 12h48 sur Europe 1, l'heure de l'entretien d'Europe Midi. Les Jeux Olympiques se sont donc achevés hier. La France termine 8e avec 33 médailles. C'est le sujet du jour et pour cela j'accueille Béatrice Barbus. Bonjour.
Bonjour.
Béatrice Barbus, vous êtes mon invitée à double titre en tant que vice-présidente déléguée à la Fédération française de handball et puis ancienne dirigeante de clubs professionnels et aussi en tant que sociologue spécialisée dans le sport. Et d'abord, un mot avec vous sur la grande réussite du handball français, garçons et filles en or sur ces Jeux. D'où vient ce succès? D'où est-ce que ça part, un succès comme ça?
De très loin. C'est très très loin. Comme on dit, on a l'habitude de se dire entre handballeurs et handballeuses qu'on sait d'où on vient, on n'a pas du tout envie d'y retourner. Ça vient de la fin des années 80, quand on était totalement inconnus. Et puis il y a eu Daniel Costantini qui a fait changer le handball, en tout cas dans un premier temps en masculin. Et puis à la fin des années 90, avec le président André Amiel, il y a des moyens qui ont été aussi débloqués pour les filles. Au début des années 2000, ces moyens ont été débloqués de façon égalitaire. Les filles l'ont demandé, les garçons l'ont souhaité également. Et puis, après, il y a du travail. Il y a du travail dans les clubs amateurs. Il y a du travail dans les clubs professionnels. Il y a du travail dans les centres de formation des clubs pro, masculins et féminins. Il y a du travail dans les pôles fédéraux de formation. Il y a du travail dans les comités départementaux, dans les luttes territoriales de détection, de moyens aussi mis à disposition pour la formation des meilleurs, à la fois filles et garçons. Donc c'est un travail, on avait comme slogan pour ces Jeux Olympiques, l'histoire s'écrit ensemble. L'histoire s'écrit ensemble au handball, à tous les niveaux, de haut en bas, de bas en haut, filles, garçons. Donc ça vient de très très loin, sincèrement. C'est un travail qui est acharné à tous les niveaux. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Ouais. On a été médaillé, je ne sais même plus quelle journée, on est lundi. Hier, déjà hier après-midi, on était déjà au travail pour faire fructifier ces médailles. Voilà, donc c'est ça, on ne s'arrête jamais, que ce soit dans le sport, dans le point de vue sportif, ou en dehors du sport, que ce soit après sur le reste, sur le back-office. Donc voilà, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail.
Est-ce qu'il y a aussi cette dimension de culture, de mémoire, j'allais dire d'histoire qui se transmet de génération en génération de sportifs, parce que les années passent, la performance reste? Il y a quelque chose de culturel que le handball français a réussi à installer un peu partout dans ses écoles, dans ses clubs?
Oui, là, ce n'est pas la sociologue parce que ça nécessiterait une étude beaucoup plus complète, mais pour côtoyer depuis maintenant plus de 10 ans, 15 ans, pas mal de sports, pas mal de fédérations, pas mal de dirigeants et dirigeantes, je crois qu'on a effectivement cette singularité culturelle qui est dans la transmission. Parfois, cette transmission s'est faite plus ou moins bien. Il y a eu quand même quelques temps faibles, notamment chez les garçons, mais aussi chez les filles. Mais de manière générale, on voit bien, depuis plus de 30 ans, la transmission se fait bien. Maintenant, à nous de la réussir aussi au niveau des dirigeants. C'est quelque chose que nous devons aussi savoir faire de ce point de vue-là, transmettre ce que les plus anciens nous ont appris et le transmettre aux plus jeunes. Oui, ça fait partie, c'est culturel. On a un profond respect chez les handballeurs et chez les handballeuses. On a un profond respect d'abord pour ceux et celles qui ont fait l'histoire sur terrain, en dehors du terrain, dans les clubs, partout. Oui, c'est quelque chose qui est ancré en nous. On a cette reconnaissance vis-à-vis du passé, on a ce respect vis-à-vis du passé, parce qu'on sait que c'est ce passé qui nous a aidés à construire le présent et qui nous aidera encore à construire le futur.
Et je voulais vous parler aussi, alors là c'est à la sociologue que je m'adresse, de ces Jeux de Tokyo qui ont été exceptionnels à plus d'un titre. Il y a eu le Covid, bien sûr, mais on a aussi vu beaucoup de sportifs, d'athlètes parler de santé mentale, de dépression, des doutes inhérents au haut niveau. Ça, c'est un changement majeur, qu'on en parle autant?
Ah oui, c'est que les athlètes eux-mêmes en parlent. C'est ça qui est le changement majeur, parce que les questions de, je vais m'exprimer en termes de gestion des ressources humaines, de risques psychosociaux, donc de vulnérabilité sociale, de mal-être, d'angoisse, de stress, voire de burn-out, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles. Elles existent depuis que le sport de haut niveau existe, et je ne vous en parle même pas. Si je conseille d'ailleurs le documentaire Le revers de la médaille, qui a été produit par Arte de ce point de vue-là, qui montre bien, justement, c'est le titre dit tout, le revers de la médaille, cette souffrance qu'il peut y avoir, qui est permanente, qui est à la fois, bien entendu, physique, mais qui est aussi mentale. Et donc, j'ai travaillé sur ce aspect-là, d'ailleurs, dans ma thèse, puisque ma thèse portait sur la gestion des ressources humaines dans le sport, notamment, et je l'ai écrite, vous voyez, en 1997, donc déjà dans les années 90, ces questions-là se posaient. Simplement, elles n'étaient pas relayées, elles n'étaient pas relayées par personne, il n'y avait pas de syndicat à l'époque. Aujourd'hui, les sportifs s'expriment sur cet aspect-là, et c'est tant mieux parce qu'il y a des limites. Le corps humain a des limites, aussi bien d'un point de vue physique que mental. Donc oui, ça c'est un changement vraiment radical que les sportifs en parlent aujourd'hui.
Par rapport à Rio, et c'est l'un de vos autres domaines d'expertise, on a vu se développer encore davantage les épreuves mixtes, donc hommes et femmes. C'est le bon chemin à suivre pour atteindre l'égalité femmes-hommes dans le sport?
Alors, c'est un chemin à suivre. Je ne sais pas si c'est le bon et le meilleur, en tout cas, mais c'est un chemin à suivre. Il y a eu 8, je crois, nouvelles compétitions mixtes pour ces Jeux Olympiques de Tokyo. Pour atteindre l'égalité, ça ne suffira pas. Là, on va atteindre une parité en 2024. Il y aura à peu près 50%, voire quasiment 50% d'athlètes féminines et d'athlètes masculins. Mais ce n'est pas parce qu'on a un nombre quantitativement égalitaire d'hommes et de femmes que pour autant l'égalité est atteinte. Il y a encore d'autres aspects sur lesquels les femmes dans le sport vont être obligées de se battre. On le voit par rapport à la maternité, par rapport à la prise en compte de leur singularité physiologique. Je pense par exemple aux règles et donc aux vêtements. On en a parlé aussi pendant ces JO, notamment avec le buzz qui a fait la contestation, les protestations des Norvégiennes pour le bikini, mais aussi des Allemandes qui ont porté un juste au corps complet. Donc on voit bien qu'il y a encore des choses à faire avancer. Je ne parle pas de l'égalité salariale, bien évidemment. Je ne parle pas de la médiatisation. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup d'aspects à faire avancer. Donc voilà, sur le plan quantitatif, numérique, on avance, ouais. Mais ce n'est pas pour autant synonyme d'égalité.
Et alors à quand, est-ce que cette perspective d'ailleurs est crédible, à quand des épreuves avec hommes et femmes mélangés qui s'affronteraient? On peut penser par exemple, je ne sais pas moi, à la voile, où on pourrait imaginer des catégories de poids plutôt que des catégories hommes-femmes, les épreuves de tir aussi, on pourrait mélanger pour le coup hommes et femmes.
Oui, absolument. Absolument. Mais écoutez, j'espère que ça viendra le plus tôt possible. Mais ça nécessite, vous savez, de la part de ceux qui ont fait les règlements et qui les font encore aujourd'hui, ça nécessite un changement total de perspective, de posture, de mentalité. Souvent, ce sont des hommes qui ont créé ces règlements en séparant les hommes et les femmes. Donc, il va falloir que, je pense, une génération de dirigeants passe le témoin pour que de nouveaux dirigeants et dirigeantes pensent l'organisation du sport différemment. Et vous l'avez dit, peut-être effectivement en fonction plutôt de catégorie de poids et non pas en fonction de sexe. On voit aussi aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs aussi pendant ces JO de Tokyo, ces frontières de genre être un peu bouleversées, notamment par des athlètes trans ou par des athlètes intersexués. Donc on voit que les choses aujourd'hui sont de plus en plus bousculées, brouillées, confuses, et que tout ça va évoluer très certainement dans les 10 ans, 20 ans qui viennent. Mais il faudra encore beaucoup de temps pour que cela soit considéré comme normal.
D'ailleurs,
donc oui, c'est un chemin. La mixité est un chemin, mais ce n'est pas le seul.
Et cette distinction homme-femme dans le sport de haut niveau, elle a toujours existé ou pas du tout ?
Ah oui, il a toujours existé depuis le départ, depuis le 19e siècle, même là où est né le sport au sens moderne du terme, c'est-à-dire en Grande-Bretagne. Il y avait, les femmes d'ailleurs n'avaient pas le droit de faire le sport en tant que tel, parce qu'elles n'avaient pas le droit de se montrer en spectacle. Le sport, c'est surtout quand il est compétition, on parle du sport compétitif, hein, là, le sport de compétition, c'est un sport qui se montre en public, et ça, ce n'était pas convenable pour les femmes, hormis quelques mondaines qui avaient le droit de faire des sports, par exemple comme le golf, pour montrer justement qu'elles appartenaient à une classe qui n'avait pas besoin de travailler pour vivre, et donc c'était un mode de consommation ostentatoire, hein, pour reprendre la formule d'un célèbre sociologue. Mais oui, la séparation a toujours été, et je ne parle pas des propos du baron de Pierre de Coubertin qui ne souhaitait pas justement que les femmes s'exhibent aux Jeux Olympiques. Donc il va falloir voir les choses autrement, mais ça va demander encore un peu de temps. Il faut être patient, il faut être tolérant. On ne change pas les mentalités et une société. En un an, en 5 ans, en 10 ans, il faut plusieurs décennies pour cela, mais on est sur la voie. On est sur la voie et moi j'ai confiance dans les jeunes générations. Et notre travail aujourd'hui, et je fais écho à ce que vous me demandiez tout à l'heure par rapport au handball, notre travail aujourd'hui des gens qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, il est d'abord là. Il
la
est de
transmission.
Préparer l'avenir, ouais. Et la transmission est de transmettre aux plus jeunes. Absolument.
Pour parler de ce sport qui change le monde et qui reflète aussi les changements du monde, merci beaucoup Béatrice Barbus d'avoir été mon invitée, vice-présidente déléguée à la Fédération de handball et sociologue du sport. Merci à vous.
Merci à vous et vive le sport et vive le hand.
Et dans un instant, la France bouge.